Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve pour cette belle émission Mission Vision. Et là, l'émission tombe dans la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui est du 1er au 7 juin. Et aujourd'hui, ben, j'avais envie, juste dans ma petite intro, là, de dire qu'on avait tout le monde une responsabilité dans cette semaine-là, parce que oui, ça fait 30 ans qu'il y a la Semaine québécoise, mais c'est aussi parce que, comme humain, je pense qu'on a une responsabilité individuelle et collective, et là-dedans, j'inclus tout le monde, même les personnes en situation de handicap. Nous aussi, on a une responsabilité, et c'est de parler, c'est de dire c'est quoi nos besoins, c'est de faire entendre notre voix. Donc moi, aujourd'hui, je reçois deux beaux invités. Comme d'habitude, je vais commencer avec Mathieu Rochette, et tout de suite après, je vais accueillir Corinne Lepage. Donc j'ai Mathieu à côté de moi. Bonjour Mathieu.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Ben ça va super bien. Mais j'ai un peu la voix enrouée, mais ça va bien.
Oh, ça s'entend presque pas.
Tant mieux.
Mais je suis vraiment contente parce que Mathieu, on s'est parlé au téléphone, mais on ne s'était jamais rencontré.
Non, c'est vrai.
Et Mathieu, t'es coordonnateur des programmes à la SAC. On avait reçu Marc Lemieux, qui est directeur général, mais la SAC, l'Association des sports pour aveugles du Québec. Mais là, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je trouve que cette émission-là, mes deux invités, ils ont vraiment une racine commune qui est au niveau de la résilience. Bon, souvent, on dit ce mot-là, mais vraiment, particulièrement, ces deux invités-là, vous allez comprendre qu'ils ont vraiment quelque chose de très fort en eux pour avoir passé au travers d'énormément d'adversités. Et Mathieu, oui, on va parler, bon, la SAC, tout ça, mais moi, j'avais vraiment envie d'aller dans un sujet un petit peu plus sensible parce que tu m'en as parlé, donc tu m'as dit, moi, je suis très à l'aise d'aborder... C'est comme tous les sujets qui étaient écrits dans ce que tu m'avais dit. Mais je trouve que tu as été vraiment très transparent. Et on parle souvent de l'handicap, mais on va dire un petit peu comme justement, quand on a un handicap, on doit être résilient. Hein? C'est comme ça se fait naturellement. Mais il y a aussi des côtés très sombres à avoir un handicap et tout le processus à travers ça aussi d'acceptation, le deuil. Et j'avais envie qu'on parle un petit peu de ta trajectoire parce que au départ, c'est un gars qui est un athlète et tout ça. Ensuite, ça a glissé au niveau de la consommation et maintenant, tu es sobre. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ça faisait une belle transition d'aller parler finalement de ce côté-là, cette partie-là de la consommation qu'on n'a pas parlé encore dans cette émission-là. Est-ce que tu es à l'aise d'aller là?
Ben oui, absolument.
OK. Ouais. Donc, au départ, dans le fond, tu dis que tu as été un athlète. On peut-tu dire que tu étais comme un athlète paralympique? Parce que tu as parlé de championnat du monde, que tu étais autant au niveau junior que finalement adulte.
Ouais, ben je peux pas avoir le titre. Ben, j'ai pas le titre de paralympien, puis je l'aurais pas. Je ne l'aurai jamais parce que je me suis pas rendu aux Paralympiques.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai fait les... En 2004, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à jouer avec l'équipe de goalball du Québec. À la fois junior, j'étais sur plus sur les bancs au niveau senior.
OK, OK.
Puis au fil des années, j'ai fait l'équipe senior, formelle au niveau provincial. J'ai été dans le roster pour l'équipe nationale.
Ah.
Et j'ai fait l'équipe junior nationale pour les championnats du monde là, au Colorado.
OK. Donc, tu n'as pas le titre du paralympien,
non.
Mais tu es quand même pas très loin.
Oui, la cas juste avant.
C'est un peu comme au hockey, tu sais, les joueurs qui vont se rendre junior majeur, ils vont peut-être pas aller dans les pros, ils peuvent faire des fois des équipes internationales.
Exact.
C'est un peu ça, dans le fond.
Oui, ça ressemble à ça.
OK.
J'ai arrêté juste avant. J'étais dans le... Parce que il y a aussi une question de performance puis de qui était là à l'époque.
Oui.
J'étais pour les niveaux seniors, j'étais... Bon, le classement, je m'en rappelle plus,
mm-hmm.
Mais on va dire 7, 8, 9 dans ces eaux-là. Puis
OK, quand
même. Puis on envoie 6 joueurs par équipe. Donc, j'étais vraiment dans le roster de développement. C'était proche, mais j'avais été... j'ai arrêté avant. Est-ce que j'aurais pu me rendre? Peut-être, je ne saurais pas.
Okay.
C'est pas important.
Puis tu as joué de quel âge à quel âge?
J'ai joué actif de 2004 à 2011, donc 7 ans. J'ai arrêté j'ai entre guillemets pris ma retraite des équipes en 2011.
Ouais.
Puis j'ai continué à jouer un peu sur le côté pour le plaisir, plus particulièrement là, dans les 3 dernières années où je suis plus revenu au niveau participatif dans le développement du bassin. Ça, j'ai joué formellement là, 7 ans dans les équipes provinciales.
Donc, tu as arrêté, tu avais quel âge?
21.
Ouais. OK, donc, tu étais quand même encore très jeune, là.
Oui, ça aurait pu... Normalement, il y a un pic de carrière où ce qu'on se dit souvent, là, ça va être autour de 25, mm-hmm, 29 mm-hmm. ans. Donc, oui, je commençais, j'approchais techniquement là, dans la fenêtre du pic.
OK. Ouais. Et toi, Mathieu, tu es né avec une vision partielle,
ouais.
Mais maintenant, tu es aveugle.
Oui, complètement. Ouais, c'est bon. L'amaurose de Lébert, donc c'est...
Oh, je connais pas. La quoi, là?
Amaurose de Lébert.
Mais j'ai déjà entendu quelque chose
ouais,
de
ouais.
Lebert. Il y en a tellement, moi-même.
Il y en a une couple de variantes. Non, super.
Oui.
Mais c'est dans le fond, c'est ma vision centrale qui a commencé à diminuer.
OK.
Puis c'est comme une espèce... Je vais le vulgariser comme ça. C'est comme une grosse tache, un gros
ouais.
nuage. Puis avec à l'adolescence, le nuage a pris plus d'ampleur. Puis
okay.
là, le reste du champ visuel et compagnie a commencé à réduire. Mais ouais, j'y vais à peu près 25-30% d'une vision régulière jusqu'à l'âge de 11-12 ans.
Oh, quand même. OK.
Puis
donc,
après ça, ça a descendu là, quand
ça
même assez vite.
Ouais. OK. Donc, c'est pas à 21 ans que tu as perdu la
non.
vue et que ça pourrait avoir expliqué la descente là, au niveau de la consommation.
Non, non.
C'est ça.
J'aime dire souvent, l'handicap de, tu sais, ton handicap, là, dans mon cas, c'est l'handicap visuel,
mm-hmm.
et certainement, un enjeu que toute personne qui vit en situation d'handicap doit composer avec.
Oui.
Ça a ses limites, ça a mm-hmm. ses épreuves. Bon. Mais il y a d'autres choses aussi dans la vie courante. Il y a plein de choses qui se passent parce que
ça
c'est
reste
pas nécessairement
qu'on,
l'handicap.
Ben c'est ça, on est un humain, là, donc à travers ça, on a des peines d'amour, on a des enjeux de travail.
C'est ça.
Ben oui, mais des fois, on l'oublie.
Puis souvent, on l'oublie parce qu'on va... C'est un peu l'espèce de première remarque qu'on va poser sur quelqu'un, si c'est un handicap physique, donc plus apparent,
oui.
Ben on va dire « Ah! » OK, bien, il y a de la misère à faire telle chose,
comme
parce que à cause de ça. Mais
c'est ça.
Mais c'est plus profond. Mais oui, non, moi, dans mon cas, faut...
Parce que c'était pas... Tu consommais pas quand tu étais athlète.
Non.
Tu n'avais pas commencé du tout.
Non, c'est ça, j'ai commencé sur le tard.
Mais c'est ça.
Disons que la bière, le phare, ces choses-là, pas plus,
oui.
pas moins que n'importe quel ado qui est en...
Mais oui, qui explore.
Bon, qui explore, puis mm-hmm. Non. Ben puis, tu sais, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait...
En consommant.
Pas quand t'es dans un mode de développement. Tu sais, j'étais à l'école temps plein.
Mm-hmm.
Je m'entraînais, bon, progressivement. C'est sûr qu'à 14 ans, c'était pas la même fréquence, le même...
Qu'à 20 ans?
Non, c'est ça, exact.
Non, c'est ça.
Mais ça reste quand même l'école temps plein. Après ça, ben, c'est de la progression. Tu te rends pas ces équipes nationaux mm-hmm. ou provinciaux en faisant juste 2-3 heures de sport semaine. Donc, on parle de quand même une quinzaine, vingtaine d'heures d'entraînement sur le terrain, en gym. C'est toute l'éthique aussi. Dans ta vie, c'est une discipline
complète.
Ah
oui, ben oui.
Et je travaillais aussi j'ai commencé à travailler à temps partiel à 17 ans. Donc, mes semaines étaient remplies.
Ouais.
Donc, rajoute l'alcool là-dedans, ça aurait été impossible.
Mais
C'est sûr.
Non, c'est ça.
Est-ce que...
Tu sais, toi-même, est-ce que tu es en mesure de dire... quand j'ai arrêté... qu'est-ce qui fait, en fait, t'as arrêté à 21 ans spécifiquement? Y a-tu une... Ouais, tu sais, comme...
Bien, il y a plusieurs facteurs. Le premier qui a été le plus dur, puis c'est là qu'à un moment donné, c'est tout te remet en question, les blessures.
Physiques?
Oui, j'ai eu des blessures quand même assez importantes mm-hmm. En 2019,
ouais.
qui fait que j'ai été un peu challengé à 2-3 mois, 4 mois à pas pouvoir faire grand-chose. Puis, tu sais, c'est là que quand tu arrives dans des hauts sommets comme ça, puis que tu es blessé, puis tu es incapable de pouvoir performer parce que tu es blessé, ben c'est... tu sais, on le voit souvent dans le sport professionnel, ou du moins, on l'entend beaucoup, là, c'est souvent des tabous, mais de dire, bon, on va geler le bobo parce que moi, si je performe pas, j'ai pas mon contrat l'année prochaine.
Mm-hmm.
Donc, quand les athlètes de haut niveau, tout sport confondu, la question, c'est pas est-ce qu'il est blessé, c'est est-ce qu'il est suffisamment... Est-ce qu'il est blessé assez pour ne pas pouvoir performer ou pas? Mais tous les athlètes de haut niveau sont tout le temps blessés.
Ben ça, oui, c'est, ça, mais, c'est, mais en fait, du moment fait, que tu es dans une trajectoire comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des blessures physiques. Là. C'est utopique de dire que tu n'auras jamais
de blessures. Tu n'es jamais à 100%.
Ben
jamais.
Non.
Donc, ça a été un peu, dans ces époques, dans ces années-là, ça a été très challengeant là, de composer avec ça. Il y a eu des... Tu sais, moi, j'ai eu des l'école secondaire a fini. Donc là, c'était un peu le flou. Qu'est-ce que je fais comme carrière? Où est-ce que je m'en vais?
Est-ce que tu avais aussi un peu comme tu te définissais comme un athlète? Fait que si t'es pas un athlète, t'es quoi?
Oui, et ça n'a jamais été non plus quelque chose de très clair. J'ai jamais accepté le titre d'athlète.
En partant.
Donc, c'est je l'ai jamais accepté. Je l'ai toujours un peu... Pas que je le boudais, au contraire, mais... en dedans de moi, tu te le fais dire, mais tu te le clames pas. Et ben oui, j'ai fait quand même, bon, j'ai fait des médailles, j'ai fait des performances, mais au final, un athlète, tu sais, le summum d'un athlète, c'était de se rendre aux Paralympiques.
Donc ta définition de l'athlète, c'était ça. C'est pour ça que tu te définissais pas comme un athlète.
Non, puis mais c'est ça. Puis, tu sais, dans toute cette période-là aussi, bon, la période de changement, il y a eu des choses personnelles qui ont causé aussi des certaines fractures, le déménagement, la vie de jeune adulte qui commence.
Mm-hmm. Bien, ça reste qu'à 21 ans, t'es jeune, là.
Oui.
Quand on est rendu plus vieux, c'est là qu'on se rend compte qu'à 21 ans, on est un bébé encore. Là, mais on a l'impression qu'on est adulte et que la vie vient de prendre son envol. Mais il y a plein d'enjeux encore importants à nommer de juste la construction de l'humain adulte.
Absolument. Fait que tu sais, quand tu te retrouves du jour... c'est pas du jour au lendemain, mais ça se fait... C'est insidieux, hein, finalement. C'est des fois que le recul, c'est 2 ans. Tu te rends compte... Maintenant, quand tu te mets dans un siège et tu regardes ce film-là, tu te dis, c'était prévisible. Mais ce coup, tu t'en rends pas compte. Donc, tu sais, les blessures, le ci, le ça, tu sais, à un moment donné, tu te définis comme, ben moi, ma vie dans les 7 dernières années a été, je travaille, j'étudie, je m'entraîne, je performe. C'est du 7-7 pendant 12 mois par année. Puis là, à un moment donné, le corps, peu importe toutes les raisons t'amènent à dire tu peux plus le faire, tu n'es pas capable là. Ça veut pas dire que tu seras pas capable demain, mais là, tu ne l'es pas. Puis à un moment donné, tu es comme, qu'est-ce que je fais? Puis c'est là que, tu sais, une des pires choses pour un athlète, c'est de réfléchir. On est tellement drainé, on est tellement rodé pour être action-réaction, action-réaction. Donc, quand tu commences à trop réfléchir, bien, c'est là que tu perds ta carte, puis c'est bon de réfléchir en passant, là, j'encourage tout le monde.
Mais non, mais je comprends ce que...
Dans le contexte où j'étais. C'est là que, là, t'es blessé, tu files pas bien, tu sais, j'ai vécu une séparation dans ces années-là.
Bon,
tu sais, il y a tout l'enjeu de la vie personnelle qui amène le reste. Et oui, c'est sûr qu'en parallèle, bien, la vision a quand même encore plus diminué dans ces années-là. Donc là, c'était, je suis plus...
Confronté à être aveugle,
utiliser sa canne blanche. Donc, tu sais, il y a... Tu mets tout ça ensemble.
C'est gros.
Bien, puis là, à un moment donné, ça, tu sais, tu pètes. Ça, j'ai pété. Il y en a qui s'en sort, puis je m'en suis sorti.
Mais t'en es sorti parce que t'es sobre. Mais t'es sobre de l'alcool, ça fait 3 ans. Et au niveau de la drogue, là, on parle de vraiment 15 ans. Là. Mais tu sais, t'as vraiment consommé dans ta vingtaine. Ça veut dire que toi, ça a été drogue et alcool.
Ah oui, un beau cocktail de soirée.
Tout en même temps. Et probablement, quand tu dis que c'est insidieux, c'est aussi que c'est associé au party, sûrement. Quelque chose d'un peu festif. Parce que souvent, on dirait que la personne, c'est plutôt rare, surtout si elle n'a jamais consommé, que tout d'un coup, un soir de pleine lune, là, elle se dit « go, je me Ouais. Tu sais, je consomme et je prends de la drogue
ce
et go.
Ce qui était drôle, ben, puis drôle avec le recul, c'est que c'est niaiseux parce que j'étais anti... tu sais, n'importe
tout
quoi
qui...
Tu sais, l'alcool, disons que c'est différent dans ma perception de l'époque.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ce qui était clair, c'est que inhaler quoi que ce soit, rentrer quoi que ce soit dans tes poumons, c'est tabarouette.
Ouais.
Tu sais, je me rappelle qu'au Colorado, quand t'es plus en altitude, puis tu cherches son souffle, puis je suis comme, Caroline, je cours une heure et demie par jour, puis là, je cherche mon souffle. Ouais. Tu sais, ça... Fait que, imagine-toi, tu rentres de la boucane en plus là-dedans.
Ouais.
Mais c'est ce qui est, tu sais, à un moment donné, c'est... T'as mal, là, t'as quelqu'un qui dit, tiens, prends ça, puis, tu sais, je suis pas innocent, je savais très bien ce que c'était,
mais
oui. Tu sais, c'est comme, ben, puis tu pognes une pof, tu es comme, ah, oh, crime pof, j'ai plus mal.
Exact.
Fait que là, c'est devenu, tu sais, au départ, ça a été un peu de, bon, de toute façon, ma carrière est finie, on arrête ça, tu sais, pourquoi pas, je travaillais déjà dans le milieu de la restauration à cette époque-là, donc, tu sais, tu vis de soir, fait que là, tu sais, tu pars de, je me lève à 6 heures. D'habitude, c'était 5h30, 6h.
Le matin,
à assez l'heure, je me couche.
C'est ça. Là, t'as une vie nocturne.
Complètement. Fait que, je vous le dirais, je vais pas mâcher mes mots, là. C'est plate la nuit si tu consommes pas. Je veux dire, la vaste majorité.
Non, mais oui, mais je comprends, parce que la majorité, je veux dire, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On fait dodo, là.
C'est ça.
Hein? Donc, on a toutes, moi aussi, comme n'importe qui, j'ai été dans des soirées festives, dans des bars, quand j'ai début vingtaine, j'ai vécu aussi ça. Et tu as tout à fait raison que moi, faire toute seule chez nous une nuit blanche, ça arrivera pas, là, à moins que vraiment je fais de l'insomnie.
Oui, c'est
là,
ça.
C'est l'enfer.
Exact.
Mais juste rester réveillée de même pour rester réveillée, ben non, les fois que j'ai fait ça... C'est parce que j'étais avec des amis et qu'on est dans un mode où est-ce que ben on étire, on prend de l'alcool, toute la soirée là, tu sais. Mais fait que oui, je comprends ça. Et là, c'est comme si ta vie était rendue nocturne. Puis là, en même temps, ben là, tous les gens consomment plus, c'est ça. Mais à quel moment t'as vu que tu traversais comme une ligne? Tu sais, parce qu'il y a un moment où est-ce que tu dis, ah, c'est récréatif, tu sais, une fois par semaine avec des chums de gars, mais qu'à un moment donné, tu te rends compte que t'en as comme besoin. Y a-tu un moment, comme un déclic que t'as fait, OK, il est 8 heures le matin, puis je suis encore en train de consommer?
Moi, le déclic, puis c'est dans ma personnalité, hein, je suis excessif, je suis facile à avoir des addictions, à être... Je pars dans un projet, je vais le faire jusqu'au bout, intense, puis dès que c'est fini, moi, je bouge à une autre affaire. Fait que, ça, c'est dans ma personnalité. Je m'en suis rendu compte à un moment donné quand que je me levais à quelque part entre 11h puis 1h l'après-midi.
Ouais.
Et que une des premières choses que je faisais, c'est que je m'assoyais puis ben je faisais juste rouler des joints.
Ah, ben garde. Non, mais c'est ça.
Le café, t'as même pas coulé ou il coulait. Puis là, t'es déjà en train de partir ta journée.
C'est
puis
ça.
Quand c'est rendu que c'est ton mode de vie, matin, midi, soir, puis il y a... Moi, comme je dis, je suis allé extrême.
Mm-hmm.
La consommation aussi, c'est insidieux parce que un verre, deux verres par jour, tu peux l'être. Ben, en fait, tu peux l'être. Tu es considéré alcoolique.
Oui.
C'est le principe de est-ce que tu en as de besoin?
C'est exactement
c'est
ça.
C'est là la ligne.
Si prendre deux verres par jour, tu es capable d'arrêter n'importe quand. T'es correct. Versus la personne que si elle revient de travailler, ça n'a pas deux bières dans le corps, il n'y a rien qui marche. Mais là, c'est là qu'il y a une dépendance. Donc, toi, ça veut dire que.
Moi, il y avait de la grosse quantité, mais c'est ça, c'est dans mon cas. Mais ça n'a pas commencé du jour au lendemain, là, ça a monté progressivement. Puis à un moment donné, c'est là que tu t'en rends compte quand tu vas voir ton pocheur, puis finalement, au lieu de dépenser 25$ pour ta semaine, t'es rendu à un coût de 150-200$, etc. Donc, tu sais, c'est à un moment donné, il y a l'accoutumance qui embarque.
Mm-hmm.
Dans mon cas, ça a été de la quantité. Fait que, évidemment, comme n'importe quoi, à un moment donné, j'ai frappé le mur. Tu sais,
frappé le mur, mettons. Ouais. C'est quoi l'événement qui fait que tu as frappé le mur? Eh bien, sûrement parce que là, au niveau de la drogue, tu as arrêté beaucoup, tu sais, plusieurs années avant l'alcool. ton mur au niveau de la consommation?
Il y a eu des événements. Il y en a eu un moment donné, c'était un, il y a un trip qui a vraiment mal passé, puis ça a créé des crises d'angoisse.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'était associé beaucoup. C'est le même. Des fois, tu fais des, on va dire, des bad trips.
Des bad trips, bon. Oui, mais c'est souvent, c'est des crises d'angoisse.
Exact. Ouais. Là, mais c'est 2-3 mois plus tard, à un moment donné, je me rappelle, je revenais du travail. Il était, on va dire, 00h30, 1h du matin quand je suis rentré chez nous. Je m'assois pour pogner mon... Je ne me rappelle plus si c'était du hash ou du pot.
Mm-hmm.
Je commence à fumer tranquille. Et là, pow! Ça a pogné le tachycardie, sueur, étourdissement. Puis là, j'ai fait « Tabarouette, qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est là que ça a vraiment parti. Puis ce qui est débile là-dedans, c'est que là, après ça, tu sais, t'as tout ce qui te traverse dans la tête de « qu'est-ce que je fais?
Mm-hmm. »
Fait qu'un coup que j'ai fait, je suis juste pas capable de gérer ça. Fait que j'ai appelé l'ambulance parce que, sur le coup, je pensais que c'était une tachycardie.
Ben oui, tu penses que c'était une crise de cœur.
Exact. Fait que finalement, ça a été... que ce soit une intoxication, peu importe. Tu sais, ça arrive des affaires. Mm-hmm. Mais moi, ça a déclenché quelque chose. Puis après, j'ai tellemment eu la chienne.
Oui,
en fait, c'est le premier moteur de l'arrêt a été la peur. Complète de... Je vais-tu crever?
Mm-hmm.
Fait que, après ça, moi, cette semaine-là, j'ai arrêté du jour au lendemain de consommer.
Oui.
Ça a été une queue de désintox. J'ai pas mangé pendant 4 jours.
Ah ouais, hein?
Puis la seule chose que j'étais capable d'ingurgiter par la suite, c'était des œufs à petite quantité. C'était, honnêtement, là, horrible. C'était dégueulasse. En même temps, c'est là que je m'étais rendu compte que ça faisait probablement 2 ans que j'avais pas rêvé.
Complètement. Toutes tes nuits étaient.
En train de mon foie, puis tout mon système était en train de désintoxiquer. Mais.
T'es-tu allé justement dans une ressource?
Non.
T'as fait ça tout seul chez toi?
Seul chez nous. Mm-hmm. Ce qui est. Tu sais, pour tous ceux qui vont entendre ça, honnêtement, si vous êtes capable, tant mieux, mais je vous encourage tellement à aller chercher de l'aide.
Oui.
Parce que, tu sais, ça, c'était le côté pour la drogue. Après ça, l'alcool a pris plus d'ampleur.
Mais c'est ça que j'allais dire. C'est que là, tu as enlevé la drogue. Mais là, vu que tu prenais aussi de l'alcool, sûrement que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que l'alcool est devenu encore plus présent dans ta vie.
Puis il ne faut pas l'oublier. Hein, l'alcool, c'est socialement accepté.
Oui.
Fait que, tu sais, moi, je travaille encore dans la restauration. J'ai quand même continué, malgré là, un coup, l'épisode de cette phase-là là, de drogue. Mais l'alcool était quand même là.
Oui.
Puis ce qui est con, c'est que le weed et compagnie a été remplacé par la nicotine à la place.
C'est comme un transfert.
Exact. Tu débarrasses d'une affaire, mais tu le remplaces par d'autres.
Mais oui.
Puis au final, c'est ça. Puis l'alcool, voyez-vous, c'est exactement la même chose qui est arrivée il y a 3 ans. Un moment donné, j'ai frappé un mur.
Ah oui?
Puis puis j'ai fait comme,
c'est terminé.
Faut arrêter.
C'est-tu encore un peu au niveau de la peur puis de dire, hey, je vais-tu mourir, là?
C'était, non pas à ce point-là.
Non, OK.
Mais ça faisait 2-3 ans peut-être, là, qu'à un moment donné, ce qui est le fun quand tu pars dans ta consommation, souvent, t'as refait ton propre monde, hein?
Oh,
tu pars dans ta tête, tu rêves, c'est là que, tu sais, là, tu peux être un champion, peu importe n'importe quoi, tu pars dans ta tête complètement, puis... ça faisait déjà deux ans avant là, que j'ai vraiment arrêté que je faisais des tentatives, j'arrête une semaine. On réduit un peu.
Oui.
Parce que ce qui était vraiment rendu triste, c'est que même dans ces moments-là où tu te dis « je vais décrocher, ça va être le fun, je vais créer mon propre univers », je passais mes soirées à pleurer.
Ah, ben là, c'est
ça. Fait que là, même là, t'sais, tout te dit... T'es pas heureux, t'es pas bien. Puis même là, t'es même plus capable d'aller chercher ton plaisir dans ça. Puis c'est ça, il y a une nuit, je me suis réveillé, puis je saignais du nez, de la face.
Okay.
C'est compliqué. Puis j'ai jamais saigné du nez. J'ai eu le nez brisé à 2 reprises. J'en ai mangé des coups sur le nez dans le sport, peu importe. Mais fait que, tu sais, me lever le matin, puis là, je saigne, puis je suis comme, ben voyons donc. Et ça a juste pris 72 heures avant que finalement ça s'estompe.
Mm-hmm.
Puis ça donne que un ami personnel, que son épouse est médecin spécialiste en toxicomanie.
Oui.
Puis elle a juste fait, c'est l'alcool.
Mm.
Fait que c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, mais dans tous les cas,
toi,
moi, j'ai fait, OK,
que...
ben regarde, tu sais, à un moment donné, c'est « it's about the time », puis c'est là que ça se donne.
Oui.
Et ça a été, le premier mois a été relativement simple, parce que là, c'était la peur. Après ça, par contre, ça a été, là, c'est la remise en question. Là,
c'est l'autre étape qui part à
puis là, est-ce que creuser puis comprendre pourquoi t'es arrivé.
C'est
à
ça.
Là. Puis c'est là que la guérison commence.
À ce moment-là, tu sais, justement, tu sais, que t'as un handicap visuel, t'as une cécité, là.
Ouais.
Tu sais, donc, là, c'est comme si t'étais face à toi-même, là aussi.
Ouais.
Tu sais, moi, je fais juste. Et puis là, le temps, il passe. Mathieu, c'est tellement
c'est
intéressant.
C'est fou, hein? Ouais, ça passe.
En fait,
vite.
C'est tellement intéressant parce que je savais pas à quel point t'allais être transparent et à l'aise parce que, tu sais, je sais jamais, tu sais, l'invité. Là,
ouais.
Peut-être qu'il va dire deux, trois phrases, puis ça va être tout, puis on va faire le tour très rapidement, mais tu t'es livré comme vraiment un livre ouvert. Puis Mathieu, je vais vraiment vouloir te réinviter.
Ça va me faire plaisir.
Vraiment, parce que là, on n'a même pas eu le temps de parler.
Non, c'est ça, finalement.
De la SAC.
C'est pas grave.
Parce que en même temps, comme je t'ai dit, je trouvais ça super intéressant parce que tu n'es pas le premier qui est en situation de handicap, qui consomme, et souvent, on n'en parle pas vraiment de ça. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose... Tu sais, déjà, quand tu consommes, t'es un peu comme dans t'es pas dans la réalité. Ce n'est pas la vraie réalité, ce qui se passe. Et là, toi, t'es pas dans la vraie réalité, mais en plus de ça, tu es dans le noir, tu sais.
Si tu t'isoles dans un isolement isolé.
Ben c'est exactement ça. C'est comme une couche,
très triste.
Une couche de plus que je vais vouloir qu'on.
Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment juste la surface. Moi, tu sais, là, le temps file. Fait que je vais juste...
Mais en fait, on n'a plus le temps.
Ben...
C'est pour ça que je dis que je vais te réinviter.
Super.
Mais ça reste que maintenant, tu es quand même coordonnateur des programmes.
Exact.
C'est toi qui crée tout ça à la SAC. Donc, c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir où tu es rendu maintenant, que c'est pas là que tu t'en allais au départ. Là,
ah non, moi, je m'en liais pour des brillantes études.
Mais ouais, puis là, après ça, c'était plus ça, là, tu sais. Donc, tu t'es vraiment relevé.
Absolument.
Et ça t'a pris énormément de force vu que tu as fait ça tout seul. Et je tiens encore à le dire, dans le noir. Tu sais, pour moi, ça, c'est exceptionnel. Donc, Mathieu Rochette, merci infiniment. Et on va se reparler pour la prochaine saison, c'est sûr.
Merci, Julie.
Et j'espère que vous avez été touchés dans cette entrevue. Et ça va continuer avec ma prochaine invitée, Corinne Lepage, qu'on reçoit tout de suite après la pause.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Alors maintenant, j'accueille Corinne Lepage. Bonjour, Corinne.
Bonjour.
Corinne. Ah, je suis vraiment émue de te recevoir parce qu'on avait parlé au téléphone, toi et moi. Je savais même pas, en fait, ton background, à part que tu avais un handicap visuel. Donc, c'est juste ça que je savais. Et finalement, quand on s'est mis à jaser, j'ai vraiment été touchée profondément, mais pas juste touchée, ça m'a confrontée. Moi-même, personnellement, je te dis, quand j'ai raccroché avec toi, j'ai appelé une de mes amies, j'ai dit, c'est trop. C'est trop de lumière, puis en même temps de peur que je porte en moi, parce que ce que tu as vécu, c'est quelque chose que j'ai vécu une partie et l'autre, que j'ai une trajectoire que possiblement je m'en irais là. Alors, on dirait que j'étais comme mitigée dans mes émotions, parce que on dirait que je me disais, oh, ça se peut, tu sais. Donc, c'est pour ça. Et je voulais vraiment te recevoir parce que toi, tu as un handicap visuel, mais tu n'as pas qu'un handicap visuel, tu as aussi une amputation des deux yeux.
Oui.
Et les gens qui me connaissent savent que c'est ma plus grande peur de me retrouver avec les deux yeux enlevés. J'en ai déjà un. C'est ça. J'ai déjà une amputation. Moi qui est arrivé adulte, là, toi, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus jeune, mais quand même, ça fait que t'en as perdu un deuxième. Et là, on dirait que moi, jusque-là, même si les médecins me disaient « prépare-toi, ça pourrait arriver ».
Non, moi, ils m'ont pas dit ça.
Ben moi, je me disais « ça se peut ». Il y a comme une partie de moi qui disait « ça se peut pas ». C'est comme si c'est trop gros, là.
C'est l'inverse pour moi. Moi, il y a une petite voix qui me disait « attention ».
C'est ça.
Puis moi, les médecins m'ont dit « non ».
Ça arrivera pas. C'est ça, on est à l'inverse. Ouais. Moi, c'est comme si on me prépare déjà, puis toi, c'était le contraire.
Moi,
toi,
je me préparais en dedans de moi, oui.
Oui, c'est ça. Parce que toi, dans le fond, on a le même background parce que c'est une myopie de naissance. Oui. Une très, très forte myopie. Toi, t'es née à moins 9.
Oui.
Moi, je suis née à moins 14. Donc, on est vraiment dans des extrêmes de myopie. Et myopie égale un œil en ballon de football. En partant... Ben, tu sais, c'est un œil qui est comme pas étiré, c'est ça. C'est pour ça que j'ai un ballon de football. Là. Il est comme pas dans sa forme.
Ça, c'est l'astigmatisme.
Le
ballon de football, c'est l'astigmatisme.
Ah, ouais, mais pour la myopie aussi. Ben, en tout cas, moi, mon œil, il est deux fois plus gros que la normale.
Oui, moi aussi, c'est ça.
Bon, ben, c'est ça. Il est peut-être pas en ballon de football, mais en tout cas, il est clairement trop gros.
C'est ça, moi, mon liquide était trop liquide.
Bon, c'est ça. Mais là, toi, c'est le fait que tu as eu des opérations et des opérations et des opérations. Je veux dire, c'est pas possible, là. Je veux dire, toi, ton premier œil, tu l'as perdu, tu étais adolescente.
Oui.
14-15 ans à peu près.
Oui.
Mais tu avais eu pas deux opérations, là.
Une dizaine.
Dizaine d'opérations. Donc, déjà, toute ta jeunesse, opération. Une autre opération.
À partir de 12 ans, oui.
Bon, voilà. Alors là, tu as eu beaucoup d'opérations. Et tes opérations, c'était pour des décollements de rétine?
Oui.
C'est ça. Comme moi. Donc, des grosses opérations, là, tu sais, dans le sens que...
Non, c'est pas des petites chirurgies. C'est pas une cataracte.
Non, c'est ça. Et ils doivent ouvrir l'œil, là, pour aller recoller ça. Et toi, ils te mettaient-tu de l'huile de silicone?
Ils me l'ont mis... 7 fois.
Bon, c'est ça. Parce que, ce qui est important de dire, moi aussi, c'est ça l'affaire, c'est que l'huile de silicone qu'ils mettent...
C'est censé être
quelque... qui est comme un genre de pansement pendant un temps X, exemple 4 mois, 6 mois, mais après ça, il doit avoir une autre opération pour le retirer. Parce que tu peux pas garder ton huile de silicone tout le temps.
Non,
fait que ça veut dire que chaque fois que tu as un décollement de rétine... faut que tu comptes 2 opérations. Donc, 2 fois qui ouvrent l'œil, qui repassent dans les mêmes cicatrices.
Oui. J'ai déjà été réopérée pendant que j'avais déjà des points.
Bon, ben moi aussi, c'est ça.
C'était le fun.
C'est ça, exact. Donc, ça fait que c'est un œil qui guérit plus à un moment donné. Tu sais, la cornée là, est plus capable d'en prendre.
Il se fatigue.
Il se fatigue beaucoup. Donc là, toi, ils ont dû le retirer.
Oui.
Complètement. Donc, à 14-15 ans...
Il avait opéré une quinzaine de fois là, avant qu'il retire au complet.
Et toi, là, à ce moment-là, on t'enlève l'œil. Est-ce que tu es comme dans un état de... de soulagement, de dire que... T'sais, comme...
Oui, puis non.
Oui, ben non, parce
je voulais
que...
pas.
Toi, est-ce que tu étais prête à te faire opérer à l'infini pour garder ton œil?
Ben oui, parce qu'on me disait que ça allait marcher, tu sais.
C'est ça, donc tu dis, OK, une autre opération, une autre, je suis capable.
J'y allais, puis je voulais garder ma vue, je voulais garder mes yeux, puis...
Ben parce qu'il y a personne qui dit ici, garde, c'est pas grave, je vais perdre de la vue, il y a rien là.
Enlevez-la ma jambe, enlevez-la.
Ben ouais, c'est ça. Mais là, on dirait que là, tu dis, mais non, je veux m'accrocher à chaque petite parcelle.
Ben oui, j'avais pas encore eu mon permis,
mais non,
toute la patente.
Mais t'as eu le temps de l'avoir.
Oui.
C'est ça l'affaire. C'est là la différence. C'est que moi, comme c'est arrivé plus tard, moi, j'ai parti ça plus lentement que toi, mais plus lentement en étant comme plus myope. Donc, moi, il n'a jamais été question que je pouvais conduire. Donc, toi, ça veut dire que là, quand tu as ton permis, tu as une prothèse, mais l'autre œil, il est à combien à peu près de myopie?
Il est à moins 15 à peu près. Là.
OK.
C'est allé jusqu'à moins 18.
OK. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le moins 15 avec des lunettes, ça marche.
C'est pas yo.
Ben non, mais il donne quand même ton permis.
Oui. Parce que si ça aurait été l'œil gauche qui aurait enlevé en premier, j'aurais pas pu conduire.
OK.
À cause des angles morts.
Ouais, OK. Et là, à ce moment-là, tu te m'as conduit, tu as conduit combien de temps?
Jusqu'à 21 ans.
Jusqu'à 21. Oui. À 21, on dit c'est terminé.
Oui.
Parce que là, tu es rendu trop myope.
Non, là, je voyais plus.
Ah, OK.
En 2012, dans le fond, ça a tout arrêté.
À deux... OK, mais ton œil...
qui marchait.
Qui marchait, là, l'autre, là, lui, il a été enlevé en 2024.
Oui.
Mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre...
En 2012, justement, en janvier, il a décidé qu'il faisait pareil comme l'autre.
OK. Mais là, c'est que tu ne voyais pas... Plus?
Ben, je voyais plus.
C'est
plus.
Ça.
Puis là, ben, on
Donc,
disait...
Donc, tu as commencé des opérations à ce moment-là.
Encore.
Oui. Donc, encore. De là, pourquoi quand tu dis tu voyais plus? C'est que là,
oui.
On t'opère.
Je savais plus.
Tu vois plus, mais là, whoop, tu reprends un petit peu de ce que tu avais perdu.
Ça repart.
OK. Et cet œil-là, tu as eu 23 opérations?
Dans les deux.
À peu près?
Dans les deux, oui.
En tout et partout?
Oui.
Ça veut dire que c'est lequel que tu t'es fait enlever en deuxième? Le droit?
Le gauche.
Le gauche en deuxième, OK. Oui. Donc, le gauche, il était. Il y a eu moins d'opérations, finalement, que le droit.
Pas mal égal, je te dirais.
OK, ça se passe.
Parce qu'ils ont, comme mis la gomme au début.
Oui. L'huile de silicone.
Non, ils ont mis le buckle avant.
Le quoi?
Le buckle.
Bien, l'anneau.
Là. Oui. Ensuite, j'ai eu du gaz.
Oui, le gaz.
Ils ont fait des tests avec du gaz aussi.
Ça tenait pas?
Non. J'ai eu deux sortes de gaz, là. Un qui partait tout seul, puis
ouais.
L'autre que non.
Oui.
Puis là, c'est ça, l'huile de silicone, là, après ça, il me criait pas. Ben non, madame, ça se peut pas.
Que ça,
ça
débarque.
Pas. J'ai dit, ben là, je m'excuse, mais j'ai tous les symptômes d'un décollement très petit. Puis c'est ça. Ça a fini qu'ils m'ont refait, puis refait, puis refait.
Ah, ouais. Et là, tu te retrouves 2024, et là, c'est terminé. Deux yeux en moins.
Oui.
Alors. À travers ça, avec beaucoup d'opérations.
Oui.
Donc, ça s'est pas fait simplement, là.
Non.
Et il y a tout le processus d'acceptation à travers ça.
Oui.
Et toi, tu es massothérapeute, donc on pourrait dire, ah, massothérapeute depuis des années. Non, non, tu es massothérapeute, toi, depuis 2021, là. On parle...
À peu près.
À peu près la pandémie, là. Donc, oui. Tu sais, tu n'avais pas encore perdu ton autre œil.
Non.
Et là, tu avais commencé déjà à faire ta formation, mais oui. En même temps, tu n'as pas fait ta formation quand tu avais 20 ans.
Non.
Moi, je suis curieuse parce que là, tu es plus jeune que moi. Tu as 35, hein, c'est ça.
Malheureusement.
Parce que c'est parce que tu as une voix plus vieille. Quand je t'avais parlé au téléphone, je me disais que tu étais plus vieille que moi.
Ah.
À cause de ta voix, parce qu'elle est plus rauque.
J'ai une vieille âme.
T'es une vieille âme, c'est ça, mais t'as une voix plus rauque que moi.
Ouais.
Donc, c'est pour ça, moi, souvent, on peut penser que des fois, j'ai 20 ans, là. Mais c'est ça, donc, toi, c'est ça, t'as 35 ans, donc ça fait pas très longtemps que t'es massothérapeute, mais est-ce que t'as eu une descente aux enfers?
Oui.
Parce que moi, j'ai l'impression que quand j'entends ta voix... C'est ça que j'ai entendu quand on s'est parlé la première fois. J'ai vraiment senti que toi, t'es allé dans le dark side.
Oui, parce que j'étais une artiste à la base.
Mm-hmm.
Je dessinais beaucoup.
Oui.
J'étais très, très à fond là-dedans. Là.
Mm. Oui, c'est quoi que tu voulais faire?
Je voulais être tatoueuse.
Tatoueuse?
Oui, bien, j'ai dessiné des dessins que des gens ont sur eux.
Oui. Avant là, de perdre, là.
Même quand j'avais perdu.
Oups. Tu as accroché.
C'est ça que ça fait quand on voit pas.
Mais non, c'est ça. OK, donc là, tu disais qu'il y a des gens qui ont des
dessins
des
de moi.
Prototypes de ce que... Tu sais, c'est ça, mais c'est toi qui les as fait en
oui.
Voyant.
Il y en a un que je voyais à moitié.
OK. Mais là, ça veut dire que toi, à ce moment-là, justement, tu es une artiste, tu es visuelle.
Oui.
Tu voulais être tatoueuse. Oups, tatoueuse et... en tout cas, cécité, handicap visuel, on s'entend que c'est plus compliqué, là.
Bien, j'étais un artiste dans l'âme, là.
Bien, clairement. Sauf que là, tu peux pas être tatoueuse à ce moment-là.
Non, mais il y a la musique qui existe.
Oui, il y a la musique, exact. Mais là, ça veut dire, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, là, tu sais, justement, dans cette descente-là?
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était... Je te dirais, je voyais beaucoup de noir.
Tu voyais beaucoup de noir, exact.
Oui.
Mais est-ce que justement le fait de voir beaucoup de noir physiquement, ça faisait que tu voyais beaucoup de noir dans ta vie?
Oui, oui.
Oui, hein?
Oui, oui. La lumière était bien, bien pénible à trouver. Là.
Oui, hein? OK. Oui. Puis là, c'est comme si tu essayais de trouver un sens à tout ça, là?
Ben, je me demandais, parce que là, j'avais une voiture neuve, ouais. J'avais un travail, toute la ouais. patente, puis là, ben...
Tu travaillais où?
Dans une shop de bois.
Dans une shop de?
De bois.
De bois.
Ouais. J'étais opérateur de machine.
Bah, c'est ça. Une autre affaire qui se fait bien quand on voit pas, hein? Avec des grosses machines, c'est ça. OK, donc c'est ça. Donc, toi, tu t'enlignais, là. Tu avais comme ta trajectoire, ouais, là. Tu sais, toi, tu as ton travail, tu dis, je vais être tatoueuse, tu sais, comme, mettons, tu sais, à temps partiel ou, tu sais, puis là, tranquillement. Ouais,
ben, c'est ça, Moi, j'étais à l'aise dans ce que j'étais, là.
Oui.
Je travaillais, mon conjoint, j'avais, tu sais, encore la vue.
Oui.
Puis là, ben du jour au lendemain, ben c'est...
C'est l'inverse.
C'est ça, c'est le jour plein nuit, là.
Exact. Mm-hmm. Puis là, au niveau des émotions, tu sais, c'était beaucoup plus de la colère, du désespoir?
Oui.
Comme oui. plus ça?
Pas mal fâché, oui.
T'étais-tu beaucoup dans une espèce de d'auto-sabotage de toi-même?
Aussi,
hein?
Oui, oui. Comme... J'ai été voir pas mal tous les côtés de ça, là.
Ouais. As-tu comme un petit parallèle avec mon invité de
oui,
juste
exactement,
avant? Hein?
Exactement. Ça.
Parce que moi, je trouve...
J'ai été dans la consommation, moi aussi.
Bien, c'est ça.
Je cherchais pas mal la lumière, maintenant.
Oui. Puis là, t'es prête un peu à n'importe quoi, finalement, pour essayer d'avoir un petit peu de bonheur à travers ça.
Oui, parce que moi, on me disait que ça arriverait pas.
Non, c'est ça.
Et ça a été bien, bien choquant pour moi de... Mm. OK, ben ça y est.
C'est là.
Justement, avant qu'il m'enlève mon œil gauche, j'étais allée faire un saut en bungee.
Avant le gauche, donc le, oui. le 8 2024.
Le 8 août, puis le 9 août, je me faisais opérer.
Mais volontairement, là. C'était, oh, pas, oui. c'était pas comme ça donnait de même.
Non, parce que sinon, il me laissait comme ça.
Il te laissait comme ça.
J'avais mal.
Oui.
Mon œil faisait tellement mal.
Oui, je sais, ça avait
ça. Je prenais des antidouleurs et tout, puis oui. ça faisait 2 ans. J'ai dit, mais mon Dieu, ils vont me laisser une main, je vais mourir, quoi.
Oui, oui.
Je filais pas bien, là.
T'étais sur...
Trop de médicaments.
Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est important de le dire, pour l'avoir vécu, se faire enlever un œil, c'est pas... Tu sais, dans le sens que c'est très douloureux. Tu sais, un œil qui dégénère, là, c'est pas comme, exemple, t'as eu un accident de travail, puis là, l'œil...
Non, c'est pas comme si t'avais une graine dans l'œil. Non.
C'est un œil qui est malade.
Oui.
C'est un œil qui s'atrophie.
Oui.
Puis un œil qui s'atrophie, là, c'est comme une espèce de raisin sec, là. C'est hyper douloureux. Puis mon médecin m'avait dit... que la cornée, c'était la partie du corps qui avait le plus de terminaisons nerveuses.
Oui.
C'est la partie la plus sensible du corps.
Mais moi, je ne sentais plus rien.
mais moi non plus, tu as rendu neurotonique qui appelle. Donc, ce qui voulait dire que quand j'avais mal, c'est pas que j'avais un trou dedans. Là.
Oui.
Mais j'ai été très beaucoup médicamentée, moi aussi, là, avec des antidouleurs, des opiacés, et tout ça. Là. Mais toi, justement, est-ce que ça, cette consommation-là, c'est ça qui t'a comme... je vais dire, maintenu dans une trajectoire de consommation? Parce que des fois, c'est comme si c'est pas bien géré, même médicalement parlant, là, la médication qu'ils te donnent. Puis là, toi, ça fait que t'en veux comme tout le temps plus pour enlever la douleur.
Ben ça, oui. À force de me faire opérer, j'ai dit, maman, voyons, comment ça que j'ai quasiment hâte, tu sais, qu'ils m'endorment.
Oui.
C'est ça.
Ben, c'est ça. Pour avoir une
pause.
Ils
m'opéraient trop souvent, c'est ça.
C'est ça. Donc, toi, tu prenais quoi, des opiacés?
Quand j'étais adolescente, avant qu'ils m'enlèvent mon œil droit, là, j'étais sur la morphine, dilodide, hydromorphone.
Bon, c'est ça.
Oxycocette et toute la patente.
Oui. Tu les avais toutes.
Oui.
OK, donc, et ça, c'est adolescente que tu prenais toute cette...
Cochonnerie-là,
c'est ça. Et est-ce que, justement, de ce côté-là, toi, tu sais, c'est comme ça que... Tu sais, oui, tu prenais ça, mais que là, à côté, parallèle, il y avait d'autres consommations qui venaient
C'est venu un peu plus après, ça.
Plus tard?
Mais tu sais, j'ai fait bien des expériences, c'est comme n'importe quel adolescent.
Ben oui.
Mais de là à m'accrocher...
Oui.
Non, ça a été plus après ça.
OK. Rendu adulte.
Bien, quand j'ai été diagnostiquée handicapée, là, en 2012.
En 2012.
Là, ça a vraiment...
Il y a eu une dérape, là.
Oui.
Puis à ce moment-là, toi, c'était-tu alcool, drogue, tout en même temps?
Tout.
Ouais, c'est ça. OK. Et ça voulait dire que t'étais, tu, c'est comme si tu gelais ouais. ta douleur.
Ben, je voulais pas être là.
Non, c'est ça, c'est
puis
ça.
Puis ça me tentait pas de me réveiller. Le matin, je me rouvrais les yeux, puis c'est... Tu vois de la merde.
Oui, oui.
Tu sais, ça te tente pas de te lever.
Non, c'est ça, c'est ça.
Tu sais, j'avais des petits oiseaux, ça m'aidait beaucoup à me lever, justement. Tu sais, bah, faut que je m'occupe d'eux autres, tu sais.
Oui.
Sinon, ben, tu sais, quand t'es tout seul avec toi-même, là, c'est pas long, là, t'as saccagé toi-même. Mm-hmm. Tu sais, t'as pilé dessus, puis tu sais, te picocher en masse.
Oui. Puis est-ce que, justement, quand ils ont enlevé ton œil en 2024... Il y a eu comme, tu sais, oui, c'est sûr, il y a un traumatisme, là, tu sais.
C'est étrange.
Mais est-ce que tu as senti un apaisement après, tu en voulant dire, hey, je ne serai plus opérée?
Oui, oui, enfin,
rapproche-toi,
c'est fini.
Rapproche-toi du micro.
oui, je me suis dit, enfin, c'est fini.
OK, OK. Puis à ce moment-là, quand tu t'es dit, c'est fini, as-tu senti que là, tu pouvais comme plonger vraiment dans... l'handicap, là, tu sais, dans le sens dans l'acceptation éventuellement, tu sais, sans dire de l'accepter, mais comme de dire, OK, là, je vais prendre...
J'ai comme pas pris le temps, je me non. suis garochée.
Tu t'es garochée.
C'est comme là, j'arrive de chez Mira, tu sais.
Oui.
Ça fait même pas 2 ans, justement, tu sais, puis moi, non. Il n'y en était pas question. Dans ma tête, j'ai tellement perdu de temps.
Oui.
Ah! Ça me tente plus, là, d'être en train de me rétablir.
Oui.
Ça me tente plus.
Ouais. T'as comme le goût que ça soit fini.
C'est ça.
Ouais.
Les cartes d'hôpital, ah ouais, aux poubelles.
Mmh, ouais, c'est ça, comme c'est fini, j'aurais pu aller dans les hôpitaux à chaque mois, là.
D'ailleurs, je salue mon médecin Mathieu qui est ici à Québec, là, que je ne reverrai pas.
T'étais où? T'étais à Québec?
Oui, parce que je viens de Rimouski.
Ouais, mais là, t'es à Deux-Montagnes?
Oui. Mais à cause de mon chum.
Ah, OK, OK. Mais sinon, toi, tu viens de par là-bas. Là, ouais. Donc, c'est pas les mêmes hôpitaux qu'ici. Là.
Ben, fallait que j'aille à Québec. Là.
Ah, oui. Ouais. OK, OK. Ça fait combien de temps que tu es ici?
Depuis 2010.
Ah, quand même. OK, donc ça fait longtemps. Là.
Oui.
OK, OK.
Un vieux couple.
Ben là, on peut dire que c'est ça. Il y en a traversé des épreuves avec toi, là.
Oui.
Dans beaucoup. L'adversité.
J'en ai fait
ça.
Voir de toutes les couleurs.
Ben, tu sais, je pense que n'importe qui peut comprendre dans où t'as passé, juste au niveau de la santé, c'est comme si c'est vraiment...
N'importe qui aurait compris s'il aurait voulu partir, là.
Ah oui.
Hey,
non, c'est un tunnel infini.
Puis lui
là.
Aussi vivait des choses de son côté, tu sais.
Ah ben là, oui, c'est ça. Puis est-ce que t'as eu à un moment donné aussi des idéations suicidaires?
Je pense que, comme tout le monde qui serait dans ma situation, oui. Mm-hmm. pas le choix de passer par là. Mais comme j'ai déjà dit à ma mère, j'ai dit, écoute, même si je suis dans le noir, ça prend de la lumière.
Mm-hmm.
S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre.
Oui, ben non, ça va ensemble.
C'est ça.
Oui. Puis c'est à quel moment que, parce que justement, tu as massothérapie, que tu as commencé, tout ça quand même, il n'y a pas si longtemps.
Oui.
C'est à quel moment que tu t'es dit, OK, là, il faut que je fasse de quoi? Il faut que je trouve de la lumière, là.
Oui, bien, c'est ça. Je voulais faire parler.
Oui.
Je voulais laisser ma trace. Mm. Moi, dans ma tête, je voulais pas me coucher dans mon cercueil et dire, j'ai été aveugle.
Oui.
Non. Je veux avoir marqué.
Mm-hmm.
C'est justement là, la résilience. Gwen Bobby, à Québec, là, elle a écrit un livre sur la résilience, puis je suis dedans.
Ça s'appelle Debout.
Oui, exactement, Debout.
Un chapitre.
Oui, un chapitre. Puis la presse de Montréal aussi m'avait interviewée.
Mm-hmm.
Puis c'est grâce à ça que...
Ce livre-là?
Le livre est venu après.
OK, OK.
Mais c'est à cause de cette entrevue-là de la presse que l'école de massothérapie a vu l'article et a dit, on y donne.
Le cours.
Oui, ils me l'ont donné.
Ils te l'ont donné.
J'ai pleuré au téléphone. Ils ont dit, madame, vous allez être massothérapeute. Ah oui!
Mm-hmm.
C'est pas de trouble. J'ai foncé.
Et comme tu dis, c'est comme si là, à ce moment-là, la vie, elle venait t'envoyer comme un message. T'sais, moi, j'aime ça dire que des fois, il y a quelque chose de plus grand que nous, t'sais, qu'on ne peut pas expliquer. Mais
je suis allée un peu partout. T'sais. J'étais un artiste. Hein, fait que
mais oui.
Je me suis dit, à un moment donné, sais, moi, j'aimais bien la photo. Mm-hmm. J'ai dit, bah, ben, t'as qu'à prendre la photo, je vais être la photo.
Oui, ben oui.
Fait que là, ben, ça a fait parler aussi, ça. Ouais. Parce que là, il y a des photographes qui voulaient me prendre en photo. Mm-hmm. Puis ils étaient comme, ben, coudonc, comment t'as fait pour qu'elle te regarde?
Ouais.
Ben, c'est ça. Moi, je me faisais du fun là-dedans, là.
Oui.
Tu sais, c'était plaisant pour moi, puis ça m'a pas. Comment dire? Ça m'a pas déstabilisé. Ça m'a pas. Ça m'a pas coûté une scène.
Ben non, en plus, c'est ça, ça a pas coûté une scène. Mais qu'est-ce qui fait que la presse a fait un article? C'est-tu toi qui les as contactés?
Non, c'était une amie à moi, justement, là, a dit, oh, on va te partir un GoFundMe.
Ah oui, OK.
Puis, tu vois, cette personne-là, je lui parle plus aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est ça.
Parce que dans le fond, tu étais encore en processus d'opération.
Oui.
À ce moment-là, quand ils ont fait l'article avec toi. Et que la massothérapie, t'ont dit, tu vas être massothérapeute. Toi, mm-hmm. tu avais encore des opérations.
Oui.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en massothérapie? Y a-tu quelque chose qui s'est passé que là, ça a fait... Ah, mon Dieu, il y a de la lumière ici?
Bien, j'étais quelqu'un de manuel, hein? Comme mm-hmm. que j'ai dit tantôt, je travaillais dans une shop de bois.
Oui.
Moi, je voulais pas être assis en arrêt d'un ordinateur. C'était non. Mm-hmm. Je me suis dit que j'allais faire de l'art.
Oui.
Avec ça.
Tout à fait.
De mes mains, faire ce que je voulais faire à la base. Mm-hmm. Donner de ma créativité.
Oui.
Puis, pour le moment, je pense que ça marche très bien parce que les gens que j'ai massés mm-hmm. sont très réceptifs.
Et ils reviennent te voir.
Ah oui, bien, ma prof de massothérapie, justement, celle qui me donnait le cours, vient me voir chez moi. Mm. Elle dit, toi, puis t'es mon du doigt.
Mais c'est parce que c'est ça, c'est que là, toi, t'as une connexion avec le corps qui est complètement différente que quelqu'un qui voit puis qui sait les techniques qu'il fait. Toi, c'est tout, c'est kinesthésique, là. Tout, ça se passe, là. Oui. Puis, tu sais, t'as un côté aussi, tu sais, au niveau de la spiritualité qui est très important dans ta vie aussi. Tu sais, comme, t'as ça là-dedans, là, aussi, là. Puis toi, est-ce que, justement, c'est ça qui fait que t'as réussi à aller chercher de la lumière? Ce côté-là, tu sais, de la vieille âme, finalement?
Oui, 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 oui. Bien, il a fallu que je me rentre l'idée dans la tête à un moment donné.
Oui.
Je te dirais, je le cherche encore totalement.
Là. Ah, ben là, oui, mais de toute façon, c'est un processus. Hein?
Mm-hmm. Tu sais, ça s'accepte pas. Non. Tu vis avec.
Oui. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, quand j'ai commencé, c'est comme si là, je me dis, bon, OK, il y a les étapes du deuil, donc je dois être capable de passer au travers pour accomplir.
Est-ce qu'on a goûté à la vue, nous?
Ben oui, c'est ça.
Ça ne tente pas?
Ben non. Mais tu sais, de dire, non, mais moi, je l'accepte pas. Tu sais, je vis avec, mais mm-hmm. je l'accepte pas.
Non plus.
Mais ça, souvent, on n'entend pas ça. C'est comme si finalement, oh, ben, tu l'acceptes pas. T'as pas réussi. T'as pas réussi l'espèce de quête d'acceptation. Oui, mais qui c'est qu'ici, là, qui va accepter d'être aveugle? Là?
Non, personne.
Ben moi, je pense pas.
Surtout quand t'as goûté à la vue, là,
C'est ça. C'est tous les deuils qui s'accumulent.
Mais pas juste ça, le momentum aussi, tu sais.
Oui.
Faut que je me mette des alarmes, des fois, parce que... Une demi-heure devient 3 heures.
Mm-hmm, oui.
tu vois plus la journée passer. Là.
C'est pas pareil. C'est ça. Puis, tu sais, si justement, on a parlé beaucoup de lumière et d'ombre et tout ça, là, en ce moment, là, dans ta vie, là, comment ça va? Là?
Ça va quand même bien.
Oui.
Oui. Je te dirais, regarde, je suis pas parfaite comme tout le monde.
Ben oui, c'est ça.
Comme tout le monde ici, personne de parfait.
Oui.
Mais je veux. Je veux vivre.
Mm-hmm.
Je veux une vie.
Oui.
Tu sais, je veux pour me dire, ben crème, j'ai réussi.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, je suis encore avec mon conjoint, ça va faire 16 ans.
Oui.
Tu sais, je continue d'avoir dans la tête de vouloir une maison, de vouloir, mm-hmm. Tu sais, mon petit lapin de terre.
Oui.
Tu sais, pouvoir dire, bon, ben je vis.
Et le fait de dire je vis, ben ça veut pas dire qu'il y a pas des moments qui sont difficile à travers ça,
non.
Mais c'est que là, tu vois qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui est beau à travers, finalement, l'handicap.
Oui.
Et le fait de dire, tu sais, que tu veux laisser ta marque. Bien, Corinne, pour vrai, t'as laissé ta marque parce que moi, avec mon appel téléphonique, tout de suite, tu t'es venu comme imprimer quelque chose, donc je sais que tu vas marquer les gens, c'est certain. Parce que, ben c'est ça, c'est une histoire qui est pas banale et que tu sois encore debout devant moi, ben t'es pas debout, en fait. T'es assis devant moi. Mais juste ça, là, c'est... Tu sais, moi, je suis vraiment en admiration et tu m'inspires vraiment beaucoup. Donc, Corinne, merci infiniment pour ton témoignage. Vraiment merci. Et moi, ben écoutez, c'est la fin de cette belle émission. Ça terminait en beauté. Parce que ben on était dans la semaine des personnes handicapées. Alors j'ai eu deux beaux modèles aujourd'hui qui ont hein, on est handicapables, c'est ça. Donc nous eh bien c'était la fin de cette saison d'émission Vision. Alors je remercie tous mes invités, je remercie Canal M de me faire confiance et Mathieu à la mise en onde de mon partenaire. Donc et moi je vous souhaite de passer un bel été et on se retrouve très bientôt. Bonne journée.